Chapitre 5. Enfin, Madame Favoral se trouvait seule avec ses enfants et il lui était permis de s'abandonner sans réserve à l'excès du plus affreux désespoir. Elle se laissa tomber lourdement sur un fauteuil et attirant à elle Maxence et Gilberte. « Oh, mes enfants » balbutiait-elle en les couvrant de baisers et de larmes. « Mes enfants, nous sommes bien malheureux !» Non moins désespéré qu'elle, il s'efforçait d'adoucir sa douleur, de lui rendre le courage de porter cette écrasante épreuve, et, agenouillé à ses pieds et lui embrassant les mains, « Ne te restons-nous pas, mère » répétait-il. Mais elle ne semblait pas les entendre. « Ce n'est pas sur moi que je pleure, » poursuivait-elle. « Moi, qu'avais-je à attendre ou à espérer de la vie ? Tandis que toi, Maxence, toi, ma pauvre Gilberte, si du moins j'étais sans reproche. Mais non, c'est à ma faiblesse et à ma lâcheté qu'est due cette catastrophe. J'ai eu horreur de la lutte. J'ai payé de votre avenir la paix de mon intérieur. J'ai oublié que d'être mère, cela impose des devoirs sacrés. » Madame Favoral était alors une femme de 43 ans, aux traits fins et doux, à la physionomie adorable de bonté et dont toute la personne exhalait comme un parfum exquis de noblesse et de distinction. Heureuse, elle eût été belle encore, de cette beauté automnale dont la maturité a les splendeurs des fruits savoureux de l'arrière-saison. Mais elle avait tant souffert. À la morne pâleur de son teint, aux plis rigides de ses lèvres, au tressaillement nerveux qui la secouait, on devinait toute une existence d'amère déception, de lutte dévorante et d'humiliation fièrement dissimulée. Tout semblait pourtant lui sourire au début de la vie. Elle était fille unique et ses parents, de riches marchands de soieries, l'avaient élevée comme une fille d'archiduchesse destinée à quelque prince souverain. Mais à 15 ans, elle avait perdu sa mère et son père n'avait pas tardé à se dégoûter de son foyer désert et à chercher au dehors une diversion à ses regrets. Son père était d'un esprit faible, un de ces hommes d'avance désignés pour les rôles de dupes éternels. Ayant de l'argent, il eut beaucoup d'amis. Ayant tâté des plaisirs faciles, il y prit goût. Il s'amusa, il soupa, il joua. Ses affaires devenaient le moindre de ses soucis. Et 18 mois après la mort de sa femme, il avait déjà dévoré une partie de sa fortune, quand il tomba entre les mains d'une intrigante que, sans respect pour sa fille, il installa audacieusement dans sa maison. En province, où tout le monde se connaît, de telles infamies sont presque impossibles. Elles ne sont pas rares à Paris, où on est comme perdu dans la foule et où manque le frein de l'opinion du voisin. 2 années durant, la pauvre jeune fille, condamnée à subir cette marâtre illégitime, endura un supplice sans nom. Elle venait d'atteindre ses 18 ans quand, un soir, son père la prit à part. « Je suis résolu à me remarier, lui dit-il, mais je veux, avant, te pourvoir d'un mari. T'en ayant cherché un, je l'ai trouvé. Dame, il n'est peut-être pas très brillant, mais c'est, à ce qu'il paraît, un brave garçon, travailleur, économe, et qui fera son chemin. J'avais rêvé mieux pour toi, mais les temps sont rudes, le commerce va mal. » Bref, n'ayant à te donner que 20 000 francs de dot, je n'ai pas le droit d'être très difficile. Demain, je t'amènerai mon candidat. » Et le lendemain, en effet, cet excellent père présentait à sa fille M. Vincent Favoral. Il ne lui plut pas, mais elle n'eut pas osé dire qu'il lui déplaisait. C'était, à 25 ans qu'il venait d'avoir, un de ces hommes tellement effacés qu'on ne découvre en eux aucun relief ou accroché une sympathie ou une aversion. Vêtu convenablement, il semblait timide et gauche, doux, réservé, médiocrement intelligent et fort défiant de soi. Il avouait n'avoir reçu qu'une éducation des plus imparfaites et se déclarait très ignorant de la vie. Comme fortune, il ne possédait guère que sa profession. Il était alors chef de la comptabilité d'une importante fabrique du faubourg Saint-Antoine, aux appointements de 4 000 francs par an. La jeune fille n'hésita pas. Tout lui paraissait préférable à l'incessant contact d'une femme qu'elle abhorrait et qu'elle méprisait. Elle donna son consentement. Et 20 jours après la première entrevue, elle était Madame Favoral. Hélas, 6 semaines ne s'étaient pas écoulées que déjà elle savait sa destinée et n'avait fait que changer d'enfer. Non que son mari fût mauvais pour elle, il n'osait pas encore. Mais il s'était assez découvert pour qu'elle pût le juger. C'était un de ces redoutables égoïstes qui stérilisent tout autour d'eux, comme ces noyés à l'ombre desquels rien ne saurait venir. Sa froideur dissimulait un entêtement stupide, sa douceur une volonté de faire. S'il s'était marié, c'est qu'il avait pensé qu'une femme est un rouage nécessaire, c'est qu'il souhaitait un intérieur pour y commander, c'est que, surtout, il avait été séduit par une dot de 20 000 francs. Car cet homme avait une passion, l'argent. Sous son masque immobile s'agitaient d'âpres convoitises. Il voulait être riche. Or, comme il ne se faisait aucune illusion sur sa valeur, comme il se savait incapable de ses conceptions ou de ses travaux qui enrichissent vite, comme il n'était aucunement entreprenant, il ne concevait qu'un moyen d'arriver à la fortune, économiser, se priver, liarder, entasser sou sur sou. Sa profession de comptable lui fournissait quantité d'exemples de la puissance financière du sou quotidiennement placé de façon à produire son maximum de rendement. Si son œil bleu s'animait, c'était lorsqu'il calculait ce que serait à l'heure actuelle le capital produit par un simple sou qu'on eût placé à 5% l'année de la naissance du Christ. Pour lui, c'était sublime, il ne concevait rien au-delà. Un sou. Il eût voulu, disait-il, vivre 1800 ans pour suivre les évolutions de ce sou, pour le voir se doubler et se centupler, produire, s'enfler, grossir et devenir, après des siècles, millions et centaines de millions. En dépit de tout, il avait, dans les premiers mois de son mariage, accordé à sa jeune femme une petite servante. Il lui donnait de temps à autre une pièce de 5 francs et la menait à la campagne le dimanche. C'était sa lune de miel, et ainsi qu'il le déclara lui-même, cette vie de prodigalité ne pouvait pas durer. Sous un futile prétexte, la petite bonne fut renvoyée. Il serra les cordons de sa bourse. Les sorties furent supprimées. À l'économie succéda l'âpre lésine qui compte les grains de sel du pot-au-feu, qui pèse le savon du blanchissage, qui mesure la chandelle de la veillée. Insensiblement, le comptable prit le pli de traiter sa jeune femme comme une servante dont on suspecte la probité et comme un enfant dont on craint l'étourderie. Chaque matin, il lui remettait l'argent de la journée et chaque soir, il s'étonnait qu'elle n'en dût pas mieux tirer parti. Il l'accusait de se laisser bêtement voler ou même s'entendre avec les fournisseurs. Il lui reprochait d'être follement dépensière, ce qui ne le surprenait pas, ajoutait-il, de la fille d'un homme qui avait dissipé une grosse fortune. C'est que, pour comble, Vincent Favoral était au plus mal avec son beau-père. Des 20 000 francs de la dot, 12 000 seulement lui avaient été versés, et c'était inutilement qu'il réclamait le reste. Les affaires du marchand de soierie étaient devenues détestables, il allait être forcé de déposer son bilan. Les 8 000 francs semblaient sérieusement compromis. À sa femme seule, il s'en prenait de cette déception. Il ne cessait de lui dire qu'elle s'était entendue avec son père pour le duper, le dépouiller, le ruiner. Quelle existence ! Certes, si la malheureuse eût su où se réfugier, elle eût fui cet intérieur où chacun de ses jours n'était qu'un long supplice. Mais où aller ? À qui demander un asile ? Elle eut de terribles tentations à cette époque où elle n'avait pas 20 ans et où on l'appelait la belle Madame Favoral. Peut-être eut-elle succombé lorsqu'elle s'aperçut qu'elle était enceinte. Un an, jour pour jour, après son mariage, elle accoucha d'un fils qui reçut le nom de Maxence. L'arrivée de ce fils n'avait que médiocrement réjoui le comptable. C'était avant tout un sujet de dépense. Il lui avait fallu donner une 30aine de francs à une sage-femme et dépenser près du double pour la layette. Puis un enfant désorganise toutes les habitudes et il tenait aux siennes, affirmait-il, plus qu'à la vie. Il voyait son ménage troublé, l'heure des repas dérangée, son importance diminuée, son autorité même méconnue. Mais qu'importait à sa jeune femme la mauvaise humeur qu'il ne prenait pas la peine de dissimuler? Mère, elle défiait son tyran. Maintenant, du moins, elle avait dans ce monde un être sur lequel reporter toutes ses tendresses brutalement refoulées. Il était une âme où elle régnait. Quelle avanie n'eût pas effacé un sourire de son fils. Avec l'admirable instinct des égoïstes, M. Favoral comprit si bien ce qui se passait dans l'esprit de sa femme qu'il n'osa pas trop se plaindre de ce que coûtait le petit garçon. Il prit son parti en brave. Et même, lorsque 4 ans plus tard, une fille, Gilberte, lui naquit, au lieu de gémir, « Baste, dit-il, le bon Dieu bénit les grandes familles. »